Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 110, Daf Kuf Yud. Bonne écoute et bon limoud.
Mars avar, un des deux pense, Rabbi Lezer pense, Kviut Mana Miltahi, le fait d'avoir fixé cette quantité d'encens dans un ustensile a une influence. Dès lors, c'est cette quantité tout entière qui doit être offerte sur l'autel qui se trouve dans le sanctuaire. Il ne peut pas réduire cette quantité. Par conséquent, s'il prend un volume équivalent à celui d'une olive pour l'offrir sur l'autel extérieur, il n'a pas transgressé l'interdiction. Et ce, uniquement dans cette situation. Umar Savar, tandis que l'autre pense, les Chachamim pensent, Lav Miltahi, cette fixation, le fait d'avoir fixé cette quantité dans un ustensile, n'a aucune influence. Par conséquent, il peut toujours réduire cette quantité et décider de n'offrir qu'un volume équivalent à celui d'une olive sur l'autel se trouvant dans le sanctuaire. Par conséquent, s'il offre cette quantité sur l'autel extérieur, il a transgressé une interdiction. Amar Rava, Hashta, dès lors, les man de Amar Kviuta de Mana Velav Klumhu, selon l'opinion qui dit que le fait d'avoir fixé une offrande dans un ustensile n'a aucune influence si cette quantité n'est pas exigé par la Torah, Kava Shisha le par. S'il a fixé une quantité de 6 louks de vin pour accompagner l'offrande d'un taureau, ou Mashach Mehen Arbaa Veikrivan Bachutz, et il a retiré de cette quantité une quantité de 4 louks qu'il a offert, donc versé sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction, chez Reuin Lehaïl, puisque finalement, cette quantité de 4 louks est apte à accompagner l'offrande d'un bélier, et puisque le fait d'avoir fixé cette quantité dans un ustensile n'a pas d'influence, il peut toujours réduire cette quantité pour l'utiliser pour accompagner l'offrande d'un bélier. Kava arba'a le'ail, s'il a fixé une quantité de 4 lougs de vin pour accompagner l'offrande d'un bélier, ou mashach mehen shlosha, il en a retiré 3, donc 3 lougs de vin, veikrivan bachutz, et il les a offerts donc versés sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction chez Rouin et Keves, car cette quantité est apte à accompagner l'offrande d'un mouton. Il peut donc toujours réduire cette quantité de 4 lougs à 3 lougs pour accompagner l'offrande d'un mouton. Chasrou kol shehu, mais s'il manque ne serait-ce qu'un petit peu à cette quantité de 3 lougs, Veikrivan Bachutz, et il les a offerts donc versés sur un autel extérieur, par tour, il est exempté, car une quantité inférieure à 3 lougs n'est pas apte à être offerte sur l'autel. C'est pourquoi il ne se rend pas coupable d'avoir transgressé une interdiction s'il les offre sur un autel extérieur. Rav Ashi Amar, il propose une autre réponse à la question que nous avons posée précédemment. Donc selon lui, lorsqu'il s'agit d'encens destiné à être offert sur l'autel se trouvant dans le sanctuaire, tout le monde est d'accord que la quantité, donc un volume équivalent à celui d'une olive, est suffisant pour se rendre quitte de l'obligation. Et si une personne offre cette quantité sur un autel extérieur, il a transgressé l'interdiction. La discussion entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, et en ce qui concerne l'encens destiné à être offert à Yom Kippour, et ce, comme nous l'avons expliqué précédemment, les Chachamim comparent l'encens destiné à être offert à Yom Kippour à l'encens destiné à être offert sur l'autel se trouvant dans le sanctuaire en ce qui concerne cette interdiction. La question s'est posée. Nous voyons que même en ce qui concerne deux types d'offrandes sur l'autel extérieur, les Chachamim ne les comparent pas en ce qui concerne cette interdiction. Comment se fait-il qu'ils comparent deux types d'offrandes offertes à deux endroits différents? Alors là-dessus, Rav Ashi répond, Nisuch me'aktara loyal ferabanan. Les Chachamim ne comparent pas ce qui est destiné à être versé comme libation à ce qui est destiné à être offert pour être brûlé sur l'autel. Donc les Chachamim ne comparent pas le vin aux autres sacrifices offerts sur l'autel, afalgav de chutz mechutz, bien qu'il s'agit de deux types d'offrandes qui sont offertes sur l'autel extérieur. Selon la Shita Mukubetset, nous sautons les deux mots suivants, haktara me haktara yalfe. Mais lorsqu'il s'agit de deux types d'offrandes offertes de la même manière, donc pour être brûlées sur l'autel, les Chachamim les comparent pour fixer la quantité concernant l'interdiction d'offrir un sacrifice sur l'autel extérieur. Afalgav de chutz mipnim, bien qu'il s'agisse de types d'offrandes offertes à des endroits différents, car l'encens offert à Yom Kippour est offert dans le Saint des Saints, donc ce qu'on appelle l'intérieur, tandis que l'encens offerte journalièrement est offerte sur l'autel qui se trouve dans le sanctuaire, que l'on considère extérieur par rapport au Saint des Saints. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Kuftet. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Kufyud à la 11e ligne du haut de la page, aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « V'chulan shechasru » toutes ces offrandes énumérées dans la Mishnah, comme le prélèvement effectué par le Kohen avec sa poignée de l'offrande à base de farine, qui est destinée à être offerte sur l'autel, ou bien le galbanum qui accompagne l'offrande à base de farine, etc. Donc tous les types d'offrandes à base de farine, auxquelles il manque une partie, donc cette offrande est invalidée. Si cette offrande est offerte sur un autel extérieur, la personne qui l'a fait n'a pas transgressé l'interdiction. Et ce, comme nous le verrons, même selon le Chachamim qui disent qu'en offrant un volume équivalent à celui d'une olive de cette offrande sur un autel extérieur, on se rend coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Alors la Gemara dit là-dessus, les Chachamim se sont posés la question suivante. Chisaron de Chutz, si la réduction de cette offrande a eu lieu à l'extérieur, donc lorsque l'offrande se trouvait déjà à l'extérieur du sanctuaire, Shemé Chisaron est considéré comme étant une réduction pour exempter cette interdiction d'offrir sur un autel extérieur, Olo Shemé Chisaron, ou bien si cette réduction a lieu à l'extérieur, ce n'est pas considéré comme étant une réduction, étant donné que l'offrande est sortie entièrement du sanctuaire pour être offerte sur un autel extérieur, même si elle a réduit par la suite, la personne qui l'offre sur l'autel extérieur s'est rendue coupable d'avoir transgressé une interdiction. La Gemara précise, « Mi'amrinan, dit-on, kivan denafak » puisque lorsque l'offrande est sortie, donc a quitté l'enceinte de la cour du sanctuaire, Yves c'est le louhou, cette offrande est de toute façon invalidée. « Malichaser, quelle différence cela fait si cette offrande a réduit ? Nous lisons selon la note marginale, « Maliotse » ou bien si cette offrande est invalidée simplement parce qu'elle est sortie de l'enceinte de la cour du sanctuaire, Odilma, ou bien nous dirons, Yotse deite bene, lorsque l'offrande est sortie de l'enceinte de la cour du sanctuaire où elle existe entièrement, in oui, une personne se rend coupable d'avoir transgressé l'interdiction de l'offrir sur l'autel extérieur, deite bene, mais si il manque une partie à cette offrande, même si elle a réduit à l'extérieur de la cour du sanctuaire, l'eau, non, une personne ne se rend pas coupable d'avoir transgressé l'interdiction de l'offrir sur l'autel extérieur. Alakma répond, Amar Abaye, Tashma vient coûte une preuve de notre Mishnah. En effet, il est enseigné dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer Poter Achiakrivet Kulam. Rabbi Eliezer exempte celui qui offre ses offrandes sur l'autel extérieur jusqu'à ce qu'il les offre entièrement. Nous voyons donc que s'il manque une partie à cette offrande, même si celle-ci a réduit uniquement à l'extérieur de la cour du sanctuaire, apparemment, l'interdiction n'a pas lieu. Amarle, Rava bar Rav Hanan et Abaye, Rabba, fils de Rav Hanan, a posé la question suivante à Abaye, Mid Rabbi Eliezer, Pachitmar, est-ce que tu apportes une preuve de l'opinion de Rabbi Eliezer, alors que les Chachamim pensent que même en offrant un morceau ou un volume équivalent à celui d'une olive, on se rend coupable d'avoir transgressé l'interdiction? Amarle, Abaye lui a répondu, Beferush Shamia Lemineh, nous lisons selon la Shita Mukubetset Demar, j'ai entendu clairement de la bouche de mon maître, Adkan Lopligé Rabbanan Aleh de Rabbi Eliezer, jusqu'ici, les Chachamim sont en désaccord avec l'opinion de Rabbi Eliezer et la DD Beneh, uniquement dans la situation où l'offrande existe entièrement, cependant il n'en a offert qu'une partie, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Aval Bechisaron, mais si l'offrande a réduit, modulé, ils sont d'accord avec lui, qu'on ne se rend pas coupable d'avoir transgressé l'interdiction tant que l'offrande n'est pas offerte tout entière ou tant qu'elle n'existe pas entièrement. Lav dechaser bachutz, n'est-ce pas que ce que mon maître a voulu dire, donc ce que Rabbi Eliezer veut dire, que même si l'offrande a réduit à l'extérieur de la cour du sanctuaire, on ne se rend plus coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. L'agma répond, lo, non, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre cet enseignement de Rabbi Eliezer, mais plutôt de Chaser Bifnim, mais nous pouvons déduire de là que si cette offrande a réduit à l'intérieur, donc dans la cour du sanctuaire, on ne se rend plus coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Mais si elle est réduite à l'extérieur, il est possible qu'on peut toujours se rendre coupable d'avoir transgressé l'interdiction. La Gemara dit Tashma, viens écoute une preuve de la suite de la Mishnah qui dit Vechulan shechasru veikrivan bachutz patur. Et toutes ces offrandes qui ont réduit et qu'on a offert sur un autel extérieur, on est exempté, on ne s'est pas rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Lav dechatzer bachutz, n'est-ce pas que la Mishnah parle même d'un cas où cette offrande a réduit à l'extérieur? Donc, nous voyons clairement que si elle réduit même à l'extérieur, on ne se rend plus coupable d'avoir transgressé l'interdiction. L'agma réfute, l'eau, non, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre, mais plutôt dechaser bifnim, si l'offrande a réduit à l'intérieur, donc dans la cour du sanctuaire, et on l'a offerte à l'extérieur, on ne se rend plus coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Mais si celle-ci a réduit à l'extérieur, il est possible qu'on se rende toujours coupable d'avoir transgressé une interdiction. Finalement, donc, cette question reste sans réponse. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Amakriv Kodashim, celui qui offre des sacrifices autres que le Korban Ola avec les graisses, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. » La Gemara demande « Amai pourquoi Be'aika Chatzitza ?» Pourtant, la viande du sacrifice fait écran entre les graisses et l'autel extérieur. On ne devrait pas considérer qu'il a transgressé une interdiction. La Gemara répond « Amar Shmuel Keshe Afran, il s'agit ici d'un cas où il a retourné la viande ou l'animal de manière à ce que les graisses étaient en contact direct avec l'autel. C'est pourquoi il a transgressé l'interdiction. Rabbi Yochanan Amar, afilu tema shelo afran. Même s'il s'agit d'une situation où il n'a pas renversé l'animal pour que les graisses soient en contact avec l'autel, behamane Rabbi Shimon hi, mais l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon, de Amar, afilu heelu ala sela, même s'il a offert le sacrifice sur un rocher, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Donc, selon lui, il n'est pas nécessaire d'ériger un autel pour transgresser cette interdiction. Il est donc possible de transgresser cette interdiction, même s'il a offert les graisses sur la viande. Mais effectivement, selon Rabbi aussi, qui exige d'ériger un autel pour transgresser cette interdiction, il n'a pas transgressé d'interdiction, étant donné que les graisses n'étaient pas en contact direct avec l'autel. Rav Amar, Rav propose une troisième réponse. Min bemino enochotzetz. Lorsqu'il s'agit de deux choses de la même sorte, comme la viande et la graisse, l'un ne fait pas écran avec l'autre. Autrement dit, même si la graisse ne touche pas directement l'autel, étant donné que l'écran est de la viande qui est de la même sorte, elle ne fait pas écran et n'empêche pas de considérer qu'il a offert cette graisse sur l'autel extérieur. Il a donc transgressé l'interdiction. Nouvelle Mishnah. Mincha shelonik metza, une offrande à base de farine dont le Kohen n'a pas effectué le prélèvement avec sa poignée, veikrivah bachutz, et une personne l'a offerte sur un autel extérieur, patour, il est exempté, étant donné que cette offrande n'est pas apte à être offerte sur l'autel tant que ce prélèvement n'a pas été effectué. Kamtza, si le Kohen a effectué le prélèvement de cette offrande, vechazar komtza letocha, puis ce prélèvement s'est mélangé dans le reste de cette offrande veikrivo bachutz et une personne l'a offerte sur un autel extérieur, donc il a offert tout ce mélange, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction, étant donné que dans cette offrande qu'il a offerte est inclus aussi le prélèvement qui lui est apte à être offert sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire. Alors la Gemara demande sur la fin de la Mishnah v'amai, pourquoi s'est-il rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur s'il a offert le reste de l'offrande dans lequel s'est mélangé le prélèvement? Livtile shiraim le kometz, les restes de l'offrande n'ont qu'à annuler le prélèvement puisque les restes sont majoritaires. Puisque c'est ainsi, on ne devrait pas considérer qu'il a transgressé une interdiction. L'agma répond, Amar Rabizera, ne emra haktara be kometz. La Torah parle d'offrir sur l'autel le prélèvement, Venemra Haktara Beshiraim, et la Torah parle aussi d'une interdiction d'offrir sur l'autel les restes de l'offrande. Donc la Torah emploie le même terme, soit concernant le prélèvement de l'offrande à base de farine, soit concernant les restes. On peut donc comparer ces deux types d'offrandes. Ma Haktarat Komet, de même que concernant l'obligation d'offrir sur l'autel le prélèvement de l'offrande à base de farine, en kometz mevatel chavero, un prélèvement n'en annule pas un autre, même si un des deux est majoritaire. Et cela, la Gemara dans Menachot Daf Kaf Bet l'apprend du fait qu'à Yom Kippour, le Kohen mélangeait le sang du taureau et le sang du bouc pour les asperger ensemble. Et la Torah dit à ce sujet qu'il prend du sang du taureau et du sang du bouc, bien que finalement le sang du taureau est majoritaire. Nous apprenons de là que ce qui est offert sur l'autel n'annule pas autre chose qui est aussi destiné à être offert sur l'autel qui y est mélangé. Donc, un prélèvement n'a pas le pouvoir d'annuler un autre prélèvement, même si le premier est majoritaire. Af haktarat shiraim, ainsi en ce qui concerne l'interdiction d'offrir sur l'autel les restes de l'offrande à base de farine, en shiraim mevatlim kometz, le reste de l'offrande n'annule pas le prélèvement, puisque c'est ainsi, étant donné que nous apprenons de là que les restes de l'offrande n'annule pas le prélèvement, il en sera de même pour l'interdiction d'offrir l'offrande à base de farine, ou plutôt le prélèvement de l'offrande à base de farine sur un autel extérieur. Nouvelle Mishnah. Hakometz vehalevona shehikriv et echad mehen bachutz. Le prélèvement de l'offrande à base de farine et le galbanum qui accompagne cette offrande, dont l'offrande des deux permet les restes de l'offrande à la consommation. Cependant, puisqu'ils sont offerts séparément, il s'agit de deux parties distinctes de la même offrande. Si une personne a offert une de ces deux parties de l'offrande sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir offert donc cette partie de l'offrande sur l'autel extérieur. Rabbi Eliezer Poter, Ad Sheakriv et Hasheni, Rabbi Eliezer est l'exemple jusqu'à ce qu'il offre aussi la deuxième partie de l'offrande sur un autel extérieur. Et cela étant donné que ces deux parties de l'offrande permettent conjointement le reste de l'offrande à la consommation, tant qu'il n'a pas offert les deux, il n'a pas transgressé l'interdiction. Echad bifnim ve'echad bachut. Cependant, s'il a offert une des deux parties sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire et le deuxième sur un autel extérieur, donc le deuxième complète l'offrande, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur, et ce, même selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Shne bazichei levona, les deux coupes de galbanum qui accompagnent les pains spéciaux qui se trouvent dans le sanctuaire, ils sont offerts donc chaque Shabbat pour permettre ces pains à la consommation lorsque ces pains sont changés. Il s'agit donc aussi de deux parties différentes d'un même sacrifice ou d'une même offrande. Sheikriv et Echad Mehen Bachutz, si une personne en a offert une de ces deux coupes sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. Rabbi Eliezer Poter, Ad Sheakriv et Hasheni, tandis que Rabbi Eliezer l'exemple, jusqu'à ce qu'il offre le deuxième aussi sur l'autel extérieur. Cependant, Echad Bifnim Vechad Bachutz, s'il a offert le premier sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire et le deuxième sur l'autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction, étant donné que ce dernier complète cette offrande, donc cela même selon Rabbi Eliezer. Nous avons vu donc dans la Mishnah que le prélèvement de l'offrande à base de farine et le galbanum qui accompagne cette offrande sont deux parties distinctes de cette offrande qui conjointement permettent les restes de l'offrande à la consommation. Ba'e Rabbi Yitzhak Nafra, komet, en ce qui concerne le prélèvement de l'offrande à base de farine, Mahu she'atir kenegdo beshiraim, est-ce que son offrande à elle toute seule permet un pourcentage équivalent, donc la moitié des restes de l'offrande à base de farine à la consommation? Et ce, s'il désigne une partie de ces restes pour être permis à la consommation par l'offrande du prélèvement. On explique sa question. Mishra Sharé, est-ce que l'offrande du prélèvement sur l'autel permet donc, comme nous disons, une partie des restes à la consommation? Ok louche miklash, ou bien il n'a pour effet que d'affaiblir l'interdiction de consommer les restes avant d'offrir les prélèvements, mais tant que le galbanum qui l'accompagne n'est pas offert sur l'autel, les restes sont toujours interdits à la consommation. Cependant, nous pouvons considérer que l'interdiction de consommer ces restes a été affaiblie. C'est-à-dire, comme l'explique le Tosfot, celui qui les consommerait ne serait pas condamné à la flagellation. Alors la Gemara demande Ali Bademan, selon qui des Tanaïm a-t-il posé cette question? I Ali Bade Rabbi Meir de Amar Mefaglim Bechatzi Matir. Si c'est selon Rabbi Meir qui dit dans Maseret Menachot Daftet Zayin que le pigoul peut prendre effet même si le Kohen a l'intention invalidante uniquement concernant la moitié du service qui permet les restes à la consommation. C'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, où il y a deux parties qui permettent l'offrande à la consommation, donc le prélèvement et le galbanum, selon Rabbi Meir, si le Kohen a une intention invalidante qu'une partie de cette offrande serait offerte sur l'autel ou consommée en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, le pigoul prend effet, celui qui consomme de cette offrande sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Alors si c'est selon Rabbi Meir, il est évident que Mishra Sharé, l'offrande d'une partie de l'offrande, donc s'il offre uniquement le prélèvement, il est évident qu'une partie correspondante, donc la moitié des restes de cette offrande, sera permise à la consommation. Car sinon, puisque la partie du service pendant laquelle il a eu l'intention invalidante ne peut pas être considérée comme étant un service complet, le pigoul ne prendra pas effet. Car pour que le pigoul prenne effet, il faut avoir une intention invalidante pendant qu'il effectue un service complet, comme l'aspersion du sang, qui, elle, permet entièrement le sacrifice à la consommation. I aliba de rabanan de amre en mefaglin bechatzi matir, si c'est selon les chachamim qui disent que le pigoul ne prend pas effet si le Kohen a une intention invalidante lorsqu'il effectue le service concernant la moitié de ce qui permet le sacrifice à la consommation. Donc, selon les chachamim, comme ils le disent dans Maseret Menachot Daf Tet Zayin, si le Kohen a une intention invalidante lorsqu'il offre le prélèvement sur l'autel, le pigoul ne prendra pas effet s'il n'a pas eu aussi cette même intention invalidante en offrant le galbanum qui accompagne cette offrande. Donc, la question se poserait selon eux, est-ce que l'offrande d'une partie de ce qui permet l'offrande à la consommation, est-ce qu'elle permet une partie correspondante ou non? Alors la Gemara demande, qui te dit que l'offrande d'une partie de ce qui permet l'offrande à la consommation permet ou même affaiblit l'interdiction? L'omishra charé, velomiklash kalish, peut-être que l'offrande d'une partie de ce qui permet l'offrande à la consommation, ni ne permet une partie de reste à la consommation, ni même n'affaiblit l'interdiction de consommer ses restes avant d'avoir offert les parties correspondantes sur l'autel. Et là, Aliba de Rabbi Eliezer. L'Agmara dit plutôt, la question se pose selon Rabbi Eliezer de notre Mishnah, qui dit qu'il est exempté s'il a offert une seule partie sur un autel extérieur, tant qu'il n'a pas offert le deuxième. Alors, l'Agmara demande, Rabbi Eliezer Karabanan Sviralé. Il est évident que Rabbi Eliezer pense comme les Chachamim de Amar en Mefaglim et Chatzimatir, qui disent que le pigoul ne prend pas effet si le Kohen a une intention invalidante uniquement lorsqu'il offre la moitié de ce qui permet l'offrande à la consommation. Car selon lui, s'il offre une partie sur un autel extérieur, il n'a pas transgressé l'interdiction. Donc, qui nous dit que l'offrande d'une partie de ce qui permet l'offrande à la consommation permet ou même affaiblit l'interdiction? Peut-être qu'en offrant seulement le prélèvement sur l'autel, ni il ne permet une partie des restes à la consommation, ni même n'affaiblit l'interdiction de consommer les restes avant d'avoir offert les parties correspondantes sur l'autel. La Gemara conclut. Et là, Aliba de Rabbanan de Acha, plutôt la question se pose selon les Chachamim d'ici, donc de notre Mishnah, qui pensent qu'en offrant même une partie de ce qui permet l'offrande à la consommation sur un autel extérieur, une personne s'est rendue coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. Pour considérer qu'il a transgressé cette interdiction, nous devons forcément considérer qu'en offrant même le prélèvement de l'offrande à base de farine, il a offert un sacrifice, c'est-à-dire que cette offrande a une influence et qu'elle a agi. Sinon, nous ne pouvons pas considérer qu'il a transgressé une interdiction, étant donné que cette offrande à elle toute seule n'a aucun effet. Voir le Keilot Yaakov Siman Membet et le Mishnah de Rabbi Aaron Siman Yud Gimel. Alors, Maï, qu'en est-il? Mishra Shari, est-ce que l'offrande d'une partie de ce qui permet l'offrande à la consommation permet une partie correspondante de ses restes à la consommation au miklash kalish, ou bien simplement elle affaiblit l'interdiction de consommer les restes? Dagma a conclu, Teku, c'est une question qui reste sans réponse, et Léon Navi répondra. Nouvelle Mishnah, Hazorek Miktsat Dam Bachutz, celui qui asperge une partie du sang d'un sacrifice à l'extérieur, et ce, même s'il s'agit de sacrifices dont le sang est destiné à être aspergé à l'intérieur du sanctuaire, et dont plusieurs aspersions sont impératives.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Koufiou d'Amoudbet. Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Et cela selon les Chachamim que nous avons vus dans les Mishnayot précédentes. Au même titre que lorsqu'il a offert un morceau de la taille d'une olive d'un sacrifice. Ici aussi, comme l'explique le Mishnat Rabbi Aaron dans Siman Yud Gimel, puisque ces différentes aspersions font partie d'un même service, en aspergeant une partie de ce sang à l'extérieur, il a transgressé une interdiction. Et selon Rabbi Eliezer, comme nous le verrons dans la Gemara, car chaque aspersion a son importance. Rabbi Eliezer Omer, Afa Menaser Meachag Bachag Bachutz, même celui qui verse de l'eau destinée à être versée comme libation sur l'autel dans la cour du sanctuaire pendant la fête de Sukkot, il a donc versé cette eau sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Rabbi Nechemia Omer, Shiare Adam Sheikribo Bachutz, une personne qui a offert sur un autel extérieur les restes du sang qui reste après les aspersions et qui sont donc destinés à être versés à la base de l'autel, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur, car comme la Gemara l'expliquera, Rabbi Nechemia pense qu'il est impératif de verser les restes du sang qui reste après l'aspersion à la base de l'autel. Nous avons vu dans la Mishnah que celui qui asperge même une partie du sang d'un sacrifice sur un autel extérieur s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Amar Rava, ou Modé Rabbi Elazar Bedamim, Rabbi Elazar qui est en désaccord avec les Chachamim dans la Mishnayot précédente. Si une personne n'offre qu'une partie du sacrifice sur un autel extérieur, selon lui, cette personne est exemptée tant qu'il n'a pas offert tout le sacrifice ou toute l'offrande. Il est d'accord en ce qui concerne le sang, donc s'il aspergeait même une partie du sang, et ce, même s'il s'agit d'un sacrifice dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire et dont plusieurs aspersions sont impératives. D'Etania, car il est enseigné dans une braïta, concernant le sang d'un sacrifice destiné à être aspergé dans le sanctuaire qui s'est répandu, il doit donc offrir un autre sacrifice pour le remplacer. Veuillez tourner la cassette. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Mimakom Shepasak Humatril. Lorsqu'il offre le sacrifice de remplacement, il reprend les aspersions là où il s'est arrêté. Nous voyons donc que les premières aspersions sont valables, puisqu'il n'est pas nécessaire de recommencer depuis le début. Puisque c'est ainsi, puisque chaque aspersion a son importance, chaque aspersion effectuée sur l'autel extérieur est donc une transgression de l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Elazar Omer, Afa Menaser Mehachag Bechag Bachutz, etc. Rabbi Elazar dit que même celui qui effectue des libations d'eau sur un autel extérieur en employant de l'eau destinée aux libations sur l'autel pendant la fête de Sukkot, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. La Gemara dit là-dessus Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Menachem Yudfa. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Menachem de la ville de Yudfat, Rabbi Lazar, Beshitat, Rabbi Akiva, Rabo Amra. Rabbi Lazar a dit cela en suivant l'opinion de Rabbi Akiva, son maître. De Amar, qui dit justement, Nisur Hamaim de Oraita, que ces libations d'eau pendant la fête de Sukkot sont prescrites dans la Torah. De Tanya, car il est enseigné dans une Braïta, Rabbi Akiva Omer, lorsque le Pasuk dit dans Bamidbar Kaftet, concernant les offrandes de sacrifices spéciaux à l'occasion de la fête de Sukkot ou le Sakhéa et les libations qui accompagnent ces sacrifices. Le pasouk s'exprime au pluriel. Lorsqu'il parle des sacrifices offerts le sixième jour de la fête de Sukkot, tandis que pour les sacrifices offerts les autres jours, il s'exprime au singulier. Beshne nisuchim akatuv medaber, le pasouk parle de deux types de libations. Echad nisuch hamayim vechad nisuch hayayim. Il y a donc une libation d'eau et une libation de vin. Nous apprenons de ce pasouk donc que pendant la fête de Sukkot, il y a deux types de libations, les libations d'eau et les libations de vin. Étant donné que ces libations d'eau sont prescrites par la Torah, il ne s'agit donc pas d'une institution des Chachamim. Celui qui offre, donc qui effectue ces libations sur un autel extérieur, a transgressé une interdiction. Et c'est cela donc que Rabbi Lazar vient nous apprendre. Amarle, Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish a posé la question suivante à Rabbi Yochanan. Puisque ces deux types de libations sont juxtaposés, on peut donc les comparer. Ima le halan shloshet lugim. Si là-bas, concernant les libations de vin, il s'agit d'une quantité minimale de 3 lugs, afkan shloshet lugim. Ainsi, ici, pour les libations d'eau, il faut une quantité minimale de 3 lugs, soit environ 1,8 litres. Veha Rabbi Lazar me'achag kamar. Pourtant, lorsque Rabbi Lazar parle dans la Mishnah, il dit simplement de l'eau destinée aux libations de la fête, sans préciser de quantité. Ima lehalan beshari motashana, si là-bas concernant les libations de vin, celles-ci existent tout le long de l'année pour l'offrande de n'importe quel sacrifice, afkan, ainsi aussi concernant ces libations d'eau, beshari motashana, elles devraient exister même tous les autres jours de l'année. Il est vrai que ces libations n'existent que pour la fête de Sukkot, mais au moins en ce qui concerne l'interdiction d'offrir des sacrifices sur un autel extérieur, celui qui effectue des libations d'eau sur un autel extérieur, même tout au long de l'année, il devrait avoir transgressé l'interdiction, de même que s'il avait effectué des libations de vin. Pourtant, Rabbi Lazar, Bechag Kamar, et dans la Mishnah, Rabbi Lazar dit clairement qu'il ne s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction que s'il a effectué ses libations sur un autel extérieur pendant la fête de Sukkot. Sous-entendu que s'il l'avait fait un autre jour, il n'a pas transgressé d'interdiction. L'Agma répond, Ishtamitte Hadeamar Rabbi Assi. Rabbi Menachem de la ville de Yudfat, qui a proposé cette interprétation de l'opinion de Rabbi Lazar, a oublié sur le moment ce qu'a dit Rabbi Assi. Deamar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunia Ish Bikat Bet Hortan. Il a dit cela au nom de Rabbi Nechunia de la vallée de Bet Hortan. Esser Netiot, la loi concernant les 10 plans. Arava et la loi concernant la sol. Venissou Hamaim et la loi concernant les libations d'eau. Halachal Moshe Misinai sont des lois qui ont été transmises oralement à Moshe Rabbeinu au Mont Sinai. C'est-à-dire, pour la Shvi'it, donc la 7e année, de même qu'il est interdit de travailler les champs pendant la 7e année, il faut déjà arrêter de travailler les champs à l'approche de la 7e année. Il est donc interdit de labourer les champs à la fin de la 6e année pour en profiter pendant la 7e année. Cependant, il a été transmis oralement à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï qu'il est permis de labourer autour de jeunes plants d'arbres jusqu'au début de la 7e année, donc jusqu'à Rosh Hashanah, pour ne pas qu'ils s'abîment. Il ne s'agit donc pas d'un labour pour la 7e année, mais même pour la 6e année. Alors, cette loi dit toujours que s'il y a 10 plants éparpillés sur une surface d'un Betsea, donc 50 coudées sur 50 coudées, soit environ 30 mètres sur 30 mètres, nous considérons que ces 10 plants se nourrissent de tout ce terrain. Il est donc permis de labourer toute cette superficie du Betsea. Deuxième loi qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, que pendant la fête de Sukkot, en plus du fait que nous prenons le loulav et le etrog, etc., il faut aussi que les kohanim fassent le tour de l'autel avec des branches de saule. Troisième loi, c'est justement le fait que les libations d'eau sont exigées pendant la fête de Sukkot. Puisque nous n'apprenons pas les lois concernant ces libations du Passouk, mais plutôt d'une loi transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, il n'y a pas nécessairement de quantité fixe. Il y a en effet des avis qui pensent qu'il faut un loug, soit environ 0,6 litres, et non pas 3 lougs. Il y en a qui disent qu'il n'y a aucune quantité fixe pour ces libations. Donc finalement, tout le monde est obligé d'être d'accord que ces libations sont exigées minatora, puisqu'il s'agit au moins d'une loi transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Celui qui effectue ces libations sur un autel extérieur a transgressé une interdiction. Et il est possible que Rabbi Lazar, qui ne précise pas de quantité dans notre Mishnah, pense justement qu'on nous l'apprenons d'une loi transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, et non pas comme Rabbi Akiva le dit, que nous l'apprenons du Passouk, et selon lui donc, il n'y a pas de quantité fixe pour ces libations. Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Hamenaser Shloshet Lugim Maim Bachag Bachutz, celui qui fait des libations, donc qui verse une quantité de 3 lougs d'eau sur un autel extérieur pendant la fête de Sukkot, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. Il s'agit évidemment d'une situation où cette eau avait été désignée pour les libations dans la cour du sanctuaire. Rabbi Elazar Omer, il ne s'agit pas du même Rabbi Elazar que nous avons vu dans la Mishnah, car comme nous le verrons, selon Rabbi Elazar de cette braïta, il y a une quantité fixe de 3 lougs d'eau pour les libations dans la fête de Sukkot. Selon certaines versions, il faut lire selon Rashi, Rabbi Elazar Berabi Shimon. Donc, Rabbi Elazar Omer, nous lisons selon la Shita Mukubetset, Vehu Shemil'an Leshem Chag, mais c'est uniquement à la condition qu'il a rempli cette eau dans un ustensile de service avec l'intention que cette eau serve comme libation pour la fête de Sukkot. Alors la Gemara demande Maï Benayou, quelle est la différence entre ces deux Tanaïm, quelle est la raison de leur discussion? La Gemara répond Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Beyesh Shiur Bemaïm Kamiflege. Leur sujet de discussion est à savoir s'il y a une quantité fixe pour l'eau de ces libations. Le premier auteur de la Braïta pense que même s'il y a une quantité minimale pour cette libation, donc cette quantité de 3 lougs d'eau, mais il n'y a pas de quantité maximale. Donc même s'il a sanctifié une quantité plus grande, qui inclut donc cette quantité de 3 lougs réglementaires, toute l'eau contenue dans ce récipient a le statut d'eau de libation, et s'il les verse à l'extérieur, donc sur un autel extérieur, il a transgressé l'interdiction. Tandis que Rabbi Elazar exprime une restriction lorsqu'il dit et cela uniquement à la condition qu'il a rempli cette eau pour la fête. Nous pouvons comprendre aussi qu'il a rempli cette eau à la manière dont on le fait habituellement pour la fête. Donc il a rempli une quantité de 3 lougs et pas plus. C'est uniquement dans cette situation qu'il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Mais si la quantité contenue dans le récipient était plus grande, l'eau n'est pas sanctifiée et n'est donc pas apte à être utilisée pour les libations. Celui qui les verse sur un autel extérieur n'aura pas transgressé l'interdiction. Rav Papa Amar, il propose une autre interprétation.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.